On est dans le Luxembourg, en 1914. La famille Auzeray vit confortablement dans son domaine. Jules, le papa, est un riche propriétaire de terres agricoles et forestières. Il est aussi franc-maçon et athée. Il se mariera avec Kitty, une ancienne bonne, issue d'une famille religieuse, et quelques années plus tard, un premier bébé naît. Elle s'appelle Jeanne. 2 ans encore après, c'est la naissance de leur deuxième enfant, Madeleine. Et ce petit monde vit dans l'une des plus belles maisons patriciennes à Bouillon. Bref, les Auzeray vivent confortablement et font partie de la haute société bouillonnaise. Les deux fillettes seront donc heureuses en famille et stimulées intellectuellement par leurs parents. Jeanne fera du piano, Madeleine, malgré elle, se testera au théâtre. Il était une fois Madeleine Auzeray. Si j'ai dit « malgré elle », c'est parce que c'est en mode survie que Madeleine s'essaye au 6e art. À 6 ans seulement, Madeleine est envoyée à l'école communale de Bouillon. Et gros problème, elle n'est pas baptisée. Et en cette époque de guerre, la religion a toute son importance. Les filles de l'école la rejettent, la traitent même de sale païenne. Et c'est dans ce contexte scolaire perturbé qu'elle se réfugie dans son grenier à jouer seule. Enfin, pas si seule. Parce qu'elle va donner vie à Pauline, un personnage fictif avec qui elle va discuter, rire, pleurer, vivre quoi. Et sans le savoir, elle construit son futur. Parce qu'à 15 ans, elle part à la capitale, au conservatoire de Bruxelles, où elle obtient un premier prix de comédie.
Après ses diplômes au conservatoire de Bruxelles, elle va jouer un petit peu au théâtre, ça va marcher à Bruxelles, mais pas si facilement que ça, parce qu'il fallait déjà trouver du travail et des rôles. Et là, elle joue dans une œuvre qui va réussir remarquablement, ça s'appelle « Le mal de la jeunesse » de Raymond Rouleau. Ça fait un tabac à Bruxelles et la pièce va être exportée à Paris. Et à Paris, elle va être remarquée par plusieurs metteurs en scène et grands acteurs. Et le tournant de sa vie, c'est arriver à Paris et quelques mois plus tard, 3 mois plus tard, en mars 1932, elle rencontre Louis Jouvet lors d'un souper, un dîner, comme on dit en France. Et puis, c'est elle qui fait le service. Et c'est elle, un peu la soubrette, jeune comédienne, etc. Donc, elle offre les flûtes à champagne. Il y a 15 personnes là à la réception. Et puis, à un moment donné, il y a Jouvet qui lui demande « Tiens, vous êtes de où, mademoiselle ?» etc. Vous provenez de où ?» Et elle dit « Bouillon-sur-Semois ». Alors que Bouillon-sur-Semois, pour un Parisien, a priori, ça ne dit rien. Et il embraye et dit « Quand j'avais 14 ans, en 1906, je suis allé à Bouillon. » Une parente éloignée de ma mère résidait là-bas. C'était à l'automne. Je respire encore l'odeur du café que les bonnes femmes grillaient dans leur petit moulin, assises sur le seuil de leur maison. Je voulais voir le presbytère du doyen de Logne, où le poète Paul Verlaine avait séjourné, et l'ancienne maladrerie au commencement de la route de Palisole. La maladrerie ? Vous connaissez la maladrerie ? S'écrie Madeleine Auzeray. Et leur histoire commence comme ça. La maladrerie, à l'époque du Moyen-Âge et après la Renaissance, c'était dans plusieurs villes ou villages, l'endroit où on soignait les lépreux. Voilà. Et c'est incroyable que cette histoire va démarrer où Jouvet connaît ce patelin. Bon, Bouillon, pour nous, c'est une petite ville, mais à l'échelle de Paris, c'est rien du tout. Et donc, il va y avoir immédiatement, ça va matcher entre eux, une affection, etc. Mais il faudra quand même 1 an ou 2 avant qu'ils sortent ensemble. Donc, elle va tout faire pour avoir les rôles. Elle va se présenter à des castings, comme on dit. Lui, il n'en a rien à faire. Mais, comme il recherche une comédienne pour son fameux École des femmes de Molière, parce qu'il y a un rôle assez extraordinaire dans cette pièce, c'est le rôle d'Agnès, qui dit à un moment donné, le petit chat est mort. Mais le petit chat est mort, il y a 100 façons de le dire. Et il voulait quelqu'un qui ait une forme de candeur dans la voix, une forme de légèreté, de douceur. Il l'a cherché pendant 20 ans et il l'a trouvé avec Madeleine Auzeray. Et il va l'amener sur scène au théâtre de l'Athénée devant des centaines de spectateurs et il trouve qu'elle a un accent ardennais encore rocailleux et il va la brutaliser, la maltraiter, lui faire répéter 100 fois, 200 fois les scènes. Le problème, c'est un type Jouvet extrêmement exigeant et qui bousculait beaucoup ses élèves et ses comédiens. Donc il va non seulement travailler son accent, travailler sa façon de dire, sa façon d'évoluer sur scène. Il répète, il est content un jour, mais lui-même n'est pas satisfait de ses consignes de mise en scène. Donc c'est incroyable. Donc il arrive vraiment à la formater comme il l'a voulu.
À ce moment, le regard de Jouvet m'évita. Je devinais en lui quelque chose que j'aurais préféré ne jamais découvrir. Et très doucement, avec le courage du désespoir, « Pourquoi voulez-vous que je revienne demain, monsieur Jouvet, puisque vous savez très bien que Valentine Tessier jouera le rôle ? Je n'ai pas de nom, moi. En dehors de la petite bonne du mal de la jeunesse, de manière originale de faire le trottoir, comme vous dites, je ne suis qu'une puce dans l'univers. » « Ne m'emmerde pas, viens demain, tu liras la scène. »« Je ne sais pas lire, monsieur Jouvet, j'ai besoin de jouer un texte. Si j'avais seulement 24 heures pour l'apprendre, mon par cœur, vous me donneriez une chance. » Alors, en enlevant sa veste, sans se retourner, « Il faudrait que tu apprennes à parler correctement le français. Mon par cœur, non mais rends-toi compte. Tu dois essayer de grandir, ma chère enfant. »« J'essaierai, » répondis-je, fixant Jouvet. « Fier. » Toute droite, sans une plainte. Les yeux pâles me regardèrent avec douceur. T'es une drôle de petite bonne femme. Et vous êtes un drôle de grand bonhomme. À demain, me dit-il. À demain sans faute, n'est-ce pas? À demain, monsieur Jouvet. Mais monsieur Jouvet m'avait profondément blessé. Quel type ce Jouvet quand même? Un jour blanc, un jour noir. Il est poète, sans aucun doute. Mais comment se fier à lui? Quelle versatilité! Jouvet est un très grand comédien. C'est peut-être normal qu'il ait plusieurs visages. Après tout, une certaine cruauté n'est-elle pas à la base du talent?
Il va jouer 8 à 9 années qui vont l'amener aux fêtes de sa gloire. Pour les grandes pièces du répertoire français. Ondine, c'est quand même la pièce extraordinaire du répertoire français créé par Jean Giraudoux en 1939 qui fait le record de recettes à Paris plus que Maurice Chevalier au Casino de Paris. Donc c'est le plus gros succès du théâtre avant-guerre, 1939, et qui sera repris par Audrey Hepburn dans les années 50 à New York, par Isabelle Adjani 70-70 à Paris et Laetitia Casta par la suite. Et on continue à jouer cette pièce-là. Et c'était créé par Madeleine Auzeray, Louis Jouvet.
Oui, j'accuse cette femme de trembler d'amour pour moi, de n'avoir que moi pour penser, pour nourriture, pour Dieu. Je suis le Dieu de cette femme. Entendez-vous?
Chevalier.
Vous en doutez? Quelle est ta seule pensée, Ondine?
Toi.
Quel est ton pain? Quel est ton vin? Quand tu présidais ma table et que tu levais la coupe, que buvais-tu?
Toi.
Quel est ton Dieu?
Toi.
Vous l'entendez, juge?
Ils partent en tournée en Amérique du Sud, en Argentine, à Buenos Aires, à Rio de Janeiro, au Brésil. Ils ont eu la chance de continuer leur art alors que d'autres étaient dans les camps de déportation, d'autres étaient dans le maquis, d'autres se cachaient dans les caves. Et eux continuaient quand même à vivre de leur art théâtral. En Amérique du Sud, il y a pire. Hein, on aurait pu être dans des goulags en Sibérie. Ils vont se chamailler, donc ils sont obligés de jouer ensemble sur scène. Or, en coulisses, c'est la guerre. Le problème, c'est que Jouvet n'était pas très fidèle et elle en a beaucoup souffert. Et à la longue, elle aussi, en 1940, voilà, elle a craqué. Elle a eu un premier amant qui était un metteur en scène juif, Max Ophüls. Alors, elle n'est pas sortie du tout avec lui parce qu'il était beau, qu'il était brillant, mais parce qu'il était juif. Ça, c'est du Madeleine Auzeray. Comme elle avait aidé les orphelins des SDF 15 ans auparavant à Bruxelles, elle voulait tout faire pour sauver Max Ophüls, juif. Elle a été au consulat à Paris, à l'ambassade. Elle a essayé d'avoir les documents pour le faire expatrier aux États-Unis, ouais, pour lui sauver la vie, lui et sa famille. Ce que j'ai trouvé, c'est que parfois, elle avait des mauvaises compagnies. Elle choisissait pas toujours les bonnes personnes. Et notamment, après la Seconde Guerre mondiale, elle a eu l'erreur incroyable. Elle s'amourachait d'un musicien, grand compositeur argentin, César de Mendoza, qui était un type assez vénal, qui voyait un petit peu l'aspect financier en priorité. Et alors, il l'a archi mal conseillé. Ils ont attaqué en justice Louis Jouvet, qui est son ancien, son ex, comme on dit aujourd'hui. Elle l'attaque devant le tribunal du travail à Paris, qu'on appelle le tribunal des prud'hommes, pour réclamer les cachets, les honoraires de la tournée qu'elle a faite en Amérique du Sud, parce qu'elle n'aurait pas touché ses honoraires. Et là, ça va faire les choux gras de la presse parisienne, qui vont dire, mais c'est quoi cette femme, là, Auzeray, mais elle est tombée bien bas pour en arriver là. Et le résultat de l'audience du tribunal, c'est que le juge les a renvoyés dos à dos. Quoi. Ils ont estimé que Madeleine Auzeray aussi avait quitté le navire, parce qu'elle est partie au bras de son musicien argentin. Jouvet ayant tellement d'importance et d'influence, il va réussir à lui fermer un tas de portes. Elle n'a plus de rôle. On lui ferme. Elle a encore quelques rôles, hein. Elle arrive encore à en vivre, mais plus du tout comme 10 ans auparavant. Et le paradoxe, c'est en Belgique, à Bruxelles et à Bouillon, à Liège, elle continue à être auréolée. On considère encore, c'est une grande comédienne. Et ça, c'est cette césure dans le livre, je l'avais relevé, c'est incroyable qu'il y avait cette différence d'appréciation entre la France et la Belgique à cause de l'influence de Jouvet.
À Bruxelles, le public applaudit sans réserve ce nouveau duo Ozeray-Rélis. Dans ses éditions du 2 octobre 1948, le journal belge Le Soir écrit que la pièce La Savetière prodigieuse est une farce andalouse où tout est drôlerie et pittoresque. Mademoiselle Ozeray est aussi espagnole que la comédie entière. Elle l'est par son allure, par son jeu, tour à tour jacassante et sentimentale. Cette grande comédienne a trouvé en Rélis, sortie du vaudeville militaire pour entrer de plein pied dans une comédie joyeuse et tendre, un partenaire digne d'elle. La presse parisienne la fusille. C'est le poteau d'exécution. Après son échec cuisant dans Jeanne d'Arc mutilée du cher Peggy, le spectacle La Savetière prodigieuse achève de nous prouver que Madame Madeleine Ozeray n'est pas faite pour jouer les héroïnes douées d'épaisseur corporelle. Elle dénature le tableau comme elle dénature le poème, écrit le journal Opéra. D'un conte rustique et coloré qui demandait une gaieté vraie, de la bonhomie, un accent gaillard et sans apprêt, elle fait quelque chose de faux jusqu'à l'insupportable.
Donc elle est, avant la Deuxième Guerre mondiale, absolument à la une des journaux, des revues. Elle fait la une de... Elle est au Panthéon du cinéma. Et puis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle va tomber petit à petit dans l'oubli. Elle fera encore quelques rôles. Et donc, c'est ça qui m'intéressait, de voir comment des personnes qui ont été auréolées, qui ont connu la gloire, arrivent encore à tenir le coup, à survivre. En fin de vie, elle perd la mémoire, elle devient Alzheimer, et le comble de la malchance et du désarroi pour une comédienne, c'est de perdre la mémoire. C'est, vous ne savez plus jouer vos rôles, donc ce sont des jeunes comédiennes qui devaient l'aider sur scène, parce que c'était une dame qui était très gentille, très coquette, elle aidait beaucoup les jeunes, et jusqu'à la fin de sa vie, avant de perdre la mémoire, elle était professeure d'art dramatique et de poésie à l'école de la Rue Blanche à Paris. Elle a donné cours à des... Par exemple, Dominique Besnéard, qui est un grand agent d'acteur, qui est très connu. Christophe Malavoie, qui avait chroniqué mon livre.
J'ai connu Madeleine Ozeray au conservatoire de la Rue Blanche à Paris. Durant 2 années, j'ai été son élève dans sa classe de poésie. Nous étions d'ailleurs assez peu nombreux à suivre ses cours, ce qui, d'une certaine manière, nous avait rapprochés encore davantage de cette femme, d'où émanait une douceur et une tendresse qui me touchent encore aujourd'hui quand je l'évoque. Délicate, attentive, rieuse, séduisante. Madeleine avait cette chose que les acteurs besogneux cherchent toute leur vie sans jamais l'atteindre ni la posséder un court instant, la grâce. Elle avait en elle cette part de poésie qui la rendait immédiatement remarquable et la protégeait de la banalité et de la médiocrité dont le monde des arts n'est hélas pas exclu. Être aux côtés de Madeleine, c'était aussi pour les jeunes apprentis comédiens que nous étions se rapprocher de Jouvet, du maître, du patron avec qui elle aura vécu la grande aventure théâtrale de sa vie. Mais Madeleine n'était pas une femme à raconter sa vie, à se faire valoir pour épater son public. Madeleine était discrète, réservée. Mais pour celui qui s'attardait dans ses yeux, il y avait de magnifiques moments à saisir. Pudique, charnel, brillant comme la marée du soir. Vertigineuse Madeleine. Enfin, c'est du moins la sensation profonde que j'ai eue avec cette comédienne dont les charmes s'exerçaient sur nous avec la persistance d'une rose odorante. Comment se fait-il que sans jamais l'avoir vue ni écoutée, je puisse aujourd'hui l'entendre dire « le petit chat est mort » et en garder une intime émotion ? N'est-ce pas là ce que l'on nomme précisément une légende ?
C'est toujours le problème de ces stars parfois déchues. Tant que tout va bien, c'est formidable. Elle a eu des beaux moments dans les années 60, 70, avant de mourir, dans les années 80, donc professeure de poésie auprès de jeunes élèves. Ça, elle était très délicate et très gentille. Ils disent qu'elle était assez extraordinaire à leur côté. Et puis, ce que j'ai trouvé, c'est que parfois, elle avait des mauvaises compagnies. Elle choisissait pas toujours les bonnes personnes. En fin de vie aussi, il y a beaucoup de gens qui ont profité d'elle, qui ont lui a volé ses tenues de scène. Des fauteuils, des robes qu'elle avait gardées qui, pour jouer La guerre de Troie n'aura pas lieu ou Ondine. Elle avait des collections de tableaux, etc. Il y a des jeunes gens. Elle aimait bien la fréquentation d'hommes plus jeunes, même de 30 ou 40 ans plus jeunes qu'elle, hein, en fin de vie, avant de tomber dans la maladie et la perte de la mémoire. Et il y en a qui ont, voilà, qui ont un peu dilapidé son patrimoine en abusant d'elle, parce qu'elle était toute générosité et toute gentillesse. Quoi.
Il n'y a pas de retraite pour Madeleine Auzeray.
Ah non, non, ça, je suis contre la retraite. De tout cœur, contre la retraite.
Assumer jusqu'au bout.
Jusqu'au bout, oui.
Et avec un bout très lointain.
Oui, parce qu'il paraît que la longévité, c'est une chose de famille. Et on vit très vieux dans la famille. On vit jusqu'à 99 ans, 100 ans. Enfin, j'espère que je n'irai pas jusque-là, hein, parce que je serais sourde ou aveugle. Ça serait pas drôle.
Vous voulez être entière.
Entière, oui.
Vous avez de la chance, Madeleine Auzeray, c'est d'avoir un théâtre intérieur, et ce théâtre intérieur est particulièrement animé.
Oui, peut-être.
Elle est pionnière en ce sens qu'elle porte déjà un petit peu l'émancipation de la femme loin. Dès ses 15 ans, elle décide de se prendre en charge, encore adolescente, et de partir en internat à Bruxelles, venant d'une province éloignée, de l'Ardenne, où elle connaît strictement personne à Bruxelles. Et elle va travailler déjà, je sais qu'elle travaille dans un magasin de textiles, de tissus. Elle essaie d'arrondir les fins de mois. Bon, les parents venaient d'un milieu plutôt confortable au niveau financier, mais c'est jamais bien vu à cette époque-là de vivre du théâtre, parce que c'est totalement aléatoire. Sa vie, c'était le théâtre, hein, c'était la poésie. Donc, à travers ça, il y a des personnes qui ont voulu la suivre au plan littéraire, au plan théâtral. Dans sa suite, beaucoup de jeunes ardennaises ou jeunes wallonnes ont voulu la suivre parce que Madeleine Auzeray, en 1936, 1937, 1938, elle est dans des premiers rôles au cinéma aussi. C'est encore le cinéma noir et blanc, on est sorti du cinéma muet quelques années auparavant, donc c'est encore le cinéma balbutiant d'avant-guerre. Mais elle est un peu un modèle pour des jeunes filles, par exemple. Moi, j'ai retrouvé des anciennes revues d'époque où on portait beaucoup de chapeaux, hein, des modèles de chapeaux. Et donc, il y avait des stylistes qui la faisaient poser avec une nouvelle robe, nouveau chapeau, etc. Donc, quelque part, on pouvait dire qu'elle était un modèle pour inciter des jeunes femmes, parfois de conditions plus modestes, de pouvoir mettre de l'argent de côté et accéder à un choix de métier ou à un savoir-être, un savoir-paraître plus intéressant, oui.
Mais enfin, je crois que les choses sont tout de même écrites. Vous ne pensez pas ?
Je crois.
Je crois qu'elles sont écrites. Va où tu veux, meurs où tu es. On dit ça en Ardennes, je crois qu'on le dit un peu partout.
C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour sa province de Luxembourg, parce qu'elle s'est inscrite à l'Académie luxembourgeoise, qui regroupe une quarantaine de personnes des différentes disciplines, de la littérature, de la sculpture, de la peinture, des différents arts. Et elle est venue régulièrement ici, en revenant de Paris. Je me souviendrai toujours, je l'avais noté dans mes recherches, il y a eu au château du Pont d'Oie de la famille Nothomb, une représentation en 1954 très connue, où elle jouait le premier rôle d'une pièce avec une compagnie qu'elle avait créée, puisque Jouvet lui avait fermé toutes les portes. Et c'était la reine Élisabeth qui était au premier rang, qui était veuve de l'ancien roi Albert, donc précédent souverain. Et donc, quelque part, ça avait fait la une de la ville de Luxembourg. Donc, Madeleine Auzeray, c'était encore un nom qui comptait dans les années 50, etc.
L'autre jour, Bouillon accueillait dans ses murs Mademoiselle Auzeray, la comédienne dont le jeu sur la scène et à l'écran a fait vibrer les deux Amériques et un grand nombre de pays d'Europe. Quelle idée eut donc Mademoiselle Auzeray de choisir la petite ville de Bouillon pour produire un talent au sujet duquel on s'accorde à y reconnaître la grande classe ? C'est vrai que, voyez-vous, Mademoiselle Auzeray est belge, et plus particulièrement bouillonnaise et luxembourgeoise. Voilà qui devrait faire se pâmer tous ses compatriotes. Mademoiselle Auzeray est une artiste dans le vrai sens du mot. Pour preuve, son répertoire qui fait applaudir, grâce à son génie d'interprète, les œuvres d'auteurs. C'est une gloire peu commune, en effet, de conduire au succès la Jeanne d'Arc de Peggy. Il est vrai, au surplus, que nous, les Belges, nous sommes très peu chauvins, quand il ne nous arrive pas encore de bouder nos contemporains qui franchissent nos frontières pour porter au loin le renom de nos couleurs.
Moi, personnellement, j'ai toujours regretté que la ville de Bouillon, ou la province de Luxembourg, ou les autorités wallonnes, ou la Fédération Wallonie-Bruxelles, n'aient pas consacré suffisamment d'importance à Madeleine Auzeray, parce qu'elle a été quand même une très très grande comédienne du théâtre français. J'en veux pour preuve deux seules citations, je vais vous dire, de Colette, qui était grand auteur français s'il en est, qui est écrite texte littéraire dans un journal, et après la première pièce à Paris de Madeleine Auzeray fin 1934, Tessa, elle dit Madeleine Auzeray, une comédienne de race toute flamme pure. Donc elle est vraiment tout emballée. Il y a eu 300 représentations de cette pièce. Et une seule référence, je vais citer, mais il y en a 15 hein, ou 25, c'est Jean Cocteau, qui est un grand dramaturge aussi, qui, après La guerre de Troie n'aura pas lieu, qui est une grande pièce du répertoire, dit Madeleine Auzeray est la poésie même. Vraiment, elle est toute poésie. Et c'est dommage que moi, je trouve à notre époque que nos autorités, province Luxembourg, je dis Wallonne, ne lui aient pas consacré suffisamment d'importance. Elle est enterrée dans une sépulture assez commune, une tombe tout à fait classique au cimetière de Bouillon. Il y a bien eu une stèle, ça c'est vrai, lors de la sortie de mon livre, je dois dire le musée ducal de Bouillon d'une part, et puis un artiste Jean-Paul Couvert ont inauguré une stèle au bord de la Semois. Ça c'est un bel hommage. Mais je trouve qu'il y a une école aurait mérité de porter son nom, un centre culturel, par exemple, une médiathèque.
Ben voilà, ici la Poulie, au début c'était un ancien corps de garde au temps de Vauban, en 1680, et alors ici on est dans ce petit cabaret qui est un petit bijou, quoi. Voilà, parce que non seulement le bâtiment, il est beau, il est mignon, il est accueillant, c'est vrai, mais en plus il se situe au pied du château, près du pont de Cordemois, près de la Semois, près de la forêt, c'est un cadre, allez, un cabaret, c'est culturel. Or, Madeleine Auzeray, c'est quand même, au niveau de Bouillon, c'est quand même un personnage qui est connu mondialement, même, quand même, avec Jouvet et tout ça. Elle a quand même fait des films qu'on voit, elle a joué au théâtre dans La guerre de Troie n'aura pas lieu. C'était une grosse, grosse pointure, quand même, pour Bouillon. Mais elle a eu du succès à Paris, quand même, hein, dans certains. Ondine et tout ça, c'était quand même des succès, quand même, pour Paris, énormes, hein. Elle avait même plus de succès à un moment donné qu'on disait que Maurice Chevalier. Ben, je suis dans le milieu culturel, c'est vrai. Donc maintenant, ça a donné un plus pour que sa présence soit ici et tout ça. Mais enfant, tout le monde connaissait Madeleine Auzeray quand même. Hein. Les gosses, on savait, on allait en traîneau comme ça près de chez elle, on descendait, on disait c'est la ruelle Saint-Nicolas, c'était la ruelle comme ça. Et on avait la maison où Madeleine Auzeray habitait. Quoi.
Je suis née le 13 septembre 1908 à Bouillon et j'en suis très fière. Ouais.
Donc c'est un personnage culturel énorme à Bouillon. Donc on s'est dit qu'il nous faut la présence de Madeleine ici dans la petite Poulie. Quoi. Elle y est une fois là, elle est là, elle est là, elle est 4-5 fois dans la Poulie. Donc son âme est là, quoi. On se dit que c'était important.
La voix principale, c'est Dominique Zachary, journaliste à l'Avenir du Luxembourg et auteur d'un ouvrage « Madeleine Auzeray ou Ondine de la Semois », un bouquin entièrement dédié à la vie de la comédienne. On le remercie évidemment pour son temps et sa passion, et on notera aussi que cet épisode nous aura fait découvrir de beaux endroits et de belles personnes. Merci donc à Jean-Jacques Toussaint du cabaret La Poulie pour les heures de découverte autour de Bouillon et la multitude d'articles récoltés autour du succès de Madeleine. Et si vous vous posiez la question, eh bien oui. À un moment, c'est bien Madeleine Auzeray qui est interviewée au micro de Jacques Chancel dans l'émission Radioscopie de 1973. Et c'est grâce aux archives de l'INA qu'on a pu vous le partager. De toute façon, comme toujours, les références abordées sont en description de cet épisode. Il était une fois nos femmes wallonnes est une série de podcasts qui part à la découverte des femmes qui ont marqué et marquent l'histoire de la Wallonie. Qu'elles soient militantes, religieuses ou artistes, ces badass d'hier et d'aujourd'hui rayonnent sur notre patrimoine wallon. Cette série est une création originale du studio Ultravague, soutenue par Star Invest. À l'interview, Héloïse Rouard. À l'écriture et au montage, Cassie Enaf. Au mixage, Marius Adam. À l'interprétation, Gaël Swan. Les visuels sont de Gilda Fellé. Et la voix off, c'est moi, Jessica Rigard.